bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington. Dans l'est de la République démocratique du Congo, de nombreuses personnes fuient les combats entre le M23 et l'armée congolaise. La majorité sont des femmes, des enfants et autres personnes vulnérables, dont des blessés. La situation humanitaire se détériore et la malnutrition se généralise, tandis que les sites de déplacés manquent d'eau potable et de médicaments. Les communautés hautes, souvent indigentes, sont débordées. Et depuis des années, de nombreux jeunes et femmes de la région des Grands Lacs sont regroupés dans des organisations de plaidoyer pour la paix. Alors la question qu'on va se poser entre autres, c'est sont-ils entendus? Comment impliquer la population dans le rétablissement de la paix? Nous avons comme invité Faïda Mwangiloua, ancienne ministre de la Condition de la Femme et de la Famille, donc en République démocratique du Congo. Elle est membre de la Synergie des femmes pour la paix et la sécurité et du Fonds pour les femmes congolaises. Madame Mwangiloua, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci beaucoup.
Alors, je voudrais qu'on écoute d'abord des témoignages ou en tout cas des commentaires, des réflexions. Tout d'abord, la réflexion de la présidente du REDAC, le réseau pour les droits de l'homme en Afrique centrale. C'est Maximilienne Ngombe, on l'écoute.
Pour impliquer la population, il faut passer par les femmes. Il y a un dialogue, mais le dialogue doit être le dialogue grassroots, dialogue intercommunautaire, pour d'abord comprendre les motivations des uns des autres qui font que les crises perdurent, et puis aussi mettre les clubs de paix pour pouvoir, n'est-ce pas, parler des questions de cohésion sociale. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. L'erreur que nous commettons est que la communauté internationale commet, c'est de penser qu'ils peuvent régler les questions de paix au niveau institutionnel, alors qu'il faut commencer à régler la paix au niveau des communautés. Donc notre approche, c'est d'impliquer des femmes, des jeunes filles, par des outils traditionnels, pour dire que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, et partager les expériences, les bonnes pratiques de la façon dont nous avons réglé les conflits au sein de nos communautés et de donner, n'est-ce pas, un sens à cela et en plus de regarder la réparation, mais au-delà de la réparation, d'autonomiser les femmes. Autonomiser les femmes, c'est pas de leur donner de l'argent, c'est de donner une formation.
Écoutons à présent Antoinette Montaigne, elle est juriste, elle est en République centrafricaine et elle a notamment participé à plusieurs processus de réconciliation au niveau local. On l'écoute.
Depuis de nombreuses années, des organisations de femmes, des jeunes et de la société civile dans les Grands Lacs ont engagé des plaidoyers efficaces auprès des acteurs pour essayer d'empêcher l'escalade actuelle. Malheureusement, nous nous trouvons bien au cœur d'une braise ardente qui prend en piège, en otage, les populations civiles. Pourtant, toutes ces structures, tout ce travail est une chance. Nous sommes tristes de constater, notamment nous centrafricains, de constater que nous sommes propulsés dans la mémoire de douleur des combats entre 2012 et 2015 dans nos pays. Et nous n'avons pas envie de vivre à nouveau ces douleurs qui sont atroces, que l'humanité n'a pas besoin de revivre. À l'époque, il y a eu des consultations populaires à la base pour essayer d'inverser la dynamique conflictuelle. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est important d'obtenir une cessation des hostilités rapidement à l'est de la République démocratique du Congo, entre toutes les parties, afin d'introduire les consultations populaires à la base qui ont le mérite d'aider les populations vulnérables, les victimes et les populations civiles à être impliquées, à dire leur position, à faire parler leur voix, la voix de son voix, pour exorciser les peines, les angoisses. C'est à ce prix qu'on pourra construire la paix, introduire la communication rompue et faire en sorte que tout un chacun puisse apporter sa contribution à l'arrêt de cette logique guerrière et meurtrière qu'il faut absolument arrêter rapidement afin de sauver des vies.
C'était Antoinette Montaigne, juriste centrafricaine. Faïda Moingiloua, vous-même, vous faites partie d'un groupe de femmes. Hein, vous êtes regroupées au sein de plusieurs organisations. On parle beaucoup d'ailleurs d'organisations qui portent le nom de Synergie. Et vous avez fait partie donc d'un groupe de femmes qui a présenté une lettre, hein, un plaidoyer notamment, pour faire cesser donc cette guerre dans l'Est de la RDC. Et il faut savoir qu'il y a de nombreuses personnes, nombreuses organisations de femmes en particulier, pas seulement en RDC, mais qui ont fait le même genre de plaidoyer pour la RDC. Donc tout cela pour dire que ça touche évidemment tout le continent. Alors pourriez-vous nous parler de cette initiative, de ce plaidoyer, de cette lettre, Faïda?
Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes des femmes et sur terrain, quand tu regardes la situation des personnes touchées par ces conflits, c'est plus des femmes et des enfants. Alors, à travers un projet, un projet qui réunit les femmes de tout.
Ah, on ne vous entend plus.
De la RCA et de la RDC. Allô, ça va?
Oui, on vous entend. Allez-y, écoute, continuez. Allô? Continuez, on vous entend.
Oui, j'étais en train de dire à travers un projet qui réunit les femmes du Cameroun, de Centrafrique, donc et de la RDC, il y a trois organisations qui sont ensemble à travers le projet Paix et Sécurité en Afrique centrale, donc qui avait sa réunion du comité de pilotage. Et les femmes en ont profité pour dire, nous sommes arrivés, on devrait travailler le 28 et le 29 janvier, mais malheureusement le 28, il y a eu des troubles au niveau de la ville de Kinshasa. Et en même temps, il y avait déjà la question de la prise de la ville de Goma. Donc, et là, les femmes ont dit, on ne peut pas rester indifférentes. Il faut absolument réfléchir sur un document. Et c'est comme ça que ce soit l'association du Cameroun, qu'on appelle l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, et même de l'Afrique centrale, Women Act Living for Together, et le Fonds pour les femmes congolaises, ont dû écrire ces documents-là pour demander avant toute chose la cessation des hostilités. Vous trouvez une population déjà sinistrée avec l'arrivée des déplacés et des milliers d'autres déplacés qui se sont ajoutés seulement au cours de ce mois de janvier, plus de 500 000 personnes. Donc on s'est dit, il faut absolument agir. Et en agissant, il faut crier pour demander la cessation des hostilités avant tout parce que les populations étaient privées d'eau et d'électricité. Et vous savez, les gens vivent du jour au lendemain. Beaucoup de ménages n'avaient rien à manger. Donc, ce qui se passe, c'est inadmissible. Voilà pourquoi les femmes ont demandé la cessation des hostilités sans condition pour permettre aux humanitaires d'agir et même aux hommes et aux femmes de bonne foi d'agir et sauver des vies humaines.
Merci
c'est
beaucoup,
une question
Faïda Moingiloua. On va revenir justement sur la portée de vos plaidoyers. Écoutons d'autres témoignages à présent, ou en tout cas d'autres analyses. C'est celle de Nelly Kantang. Elle est à Lubumbashi, donc en République démocratique du Congo. Elle est artiste.
Bien sûr qu'il y a eu des plaidoyers. Ce que nous voulons tous, c'est que cette guerre puisse cesser. Mais nous ne sommes pas, les plaidoyers ne sont pas entendus. Parce que on pense que les problèmes des Africains doivent se traiter entre Africains. Il y a des tueries, il y a des femmes, des enfants qui meurent tous les jours à l'est de notre pays. Mais nous ne voyons pas l'implication de la communauté internationale. Et c'est vraiment dommage pour notre pays et aussi pour impliquer la population dans le rétablissement de la paix, c'est que nous puissions être d'abord les artisans de la paix. On peut impliquer cette population-là en lui accordant d'abord la paix, en désarmant les jeunes, ceux qui sont armés pour agresser la RDC.
On va écouter à présent Elodie Ntamuzinda, elle est congolaise également et elle est donc du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs du développement durable.
Tout ce que nous pouvons recommander est que cela cesse et que ça cesse d'une manière durable. Nous n'allons pas condamner d'abord ce qui se passe à l'interne, mais nous dirons, nous pourrons corriger nos problèmes, il y en a, nous pourrons les corriger, nous pourrons y revenir. Mais en attendant que les deux parties se mettent vraiment autour d'une table pour qu'ils échangent, pour qu'ils dialoguent, pour qu'il n'y ait pas de problème dans le monde, dans la vie, qui ne trouve pas de solution. Là où il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. Mais nous condamnons tous les actes qui peuvent être dans le sens mener des campagnes de diabolisation, de stigmatisation, de haine, ça ou bien de xénophobie. Et c'est là où nous réveillons la conscience de l'élite congolaise qui n'est pas dans cette masse. Nous voulons que ceux qui sont là comme les responsables des organisations dans toutes les provinces, les institutions, que nous puissions réfléchir d'une manière durable et que cela quand même prenne fin sans que nous puissions nous pencher soit d'un côté, soit d'un autre, puisque nous pourrons être sentimentaux, nous pourrons être dans des émotions, et là, la manière dont peut-être je perçois les problèmes, ça ne peut pas être de la même manière dont tout le monde peut le faire. Et donc, je ne souhaiterais pas aussi que le message soit déformé par moi-même suite à l'émotion que je ressens.
Voilà une réflexion très intéressante de Elodie Ntamuzinda, qui est du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Faïda Mwangilwa, vous avez entendu toutes ces réflexions. On va revenir justement sur plusieurs points qui ont été évoqués ici. Tout à l'heure, nous avons deux intervenantes qui ont parlé notamment de la consultation populaire. Au niveau de la consultation populaire, vous-même, qu'est-ce que vous proposez? Et dans tous les cas, de quelle manière cela est vraiment efficace? Parce que l'on sait que dans tous les processus de paix, on arrive à un moment donné à cette fameuse consultation populaire.
Oui, effectivement, ce que nous sommes en train de demander, c'est que les gens se parlent. On ne peut pas terminer un conflit sans se parler. Nous devons nous parler et de façon continue, en interne comme en externe. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre comment la RDC doit être maintenue dans une guerre plus de 30 ans. Au niveau des communautés, effectivement, par rapport à notre organisation, la Synergie des femmes pour la paix et la sécurité, nous avons commencé, notre équipe a commencé ces consultations-là, même au niveau des populations déplacées, pour dire comment vous pensez de vous-même construire votre paix. Parce que la construction de la paix, comme l'a dit, je pense que c'était ma sœur Antoinette, la construction de la paix doit commencer à la base. À un moment, les populations doivent se dire, vous les politiques, laissez-nous, nous devons travailler au niveau de la base. Et là, il y a un impact. Lorsque le travail ne se fait pas au niveau de la base, il y a aussi trop de manipulation. Trop de manipulation, pourquoi on n'arrive pas à construire de façon durable la paix? Et là, franchement, la RDC doit continuer à travailler, et même les pays de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, un pays peut être épargné, on ne sait pas demain, après-demain. Quand on voit l'histoire de notre région, en Angola, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, à RDC, c'est toujours des cycles de conflits. Comment faire en sorte qu'au niveau de chaque pays, les gens travaillent à la base et après, au niveau régional, les gens apprennent à se concerter? La réponse ne nous viendra pas d'ailleurs. Moi, je crois à la réponse à des initiatives internes pour consolider une fois pour toutes la paix. Nous ne devons pas compter quel avenir on va laisser à nos enfants. Durant plus de 30 ans, nous-mêmes, nous avons vieilli. Et mais qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Donc, voilà pourquoi, lorsqu'on dit, par exemple, les femmes sont écoutées ou quoi, à un certain moment, nous pensons que nous ne sommes pas écoutées. Les femmes de la RDC ont même fait un déplacement. Lorsqu'il y a eu une sorte, on a constaté une sorte de ralentissement dans le processus de Luanda. Les femmes membres de la synergie ont effectué un déplacement jusqu'à rencontrer le président angolais. Donc, là, quand ils l'ont rencontré, effectivement, en tout cas, nous avons cru qu'il nous a écouté parce qu'il a repris le bateau de commandement, c'est-à-dire faire le tour dans la région, à Kinshasa comme à Kigali, rencontrer les autorités. On a vu des réunions se tenir au niveau ministériel, mais on n'a pas compris comment, à un certain moment, tout s'est arrêté. Et là, je vois le rendez-vous du 15 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes à un niveau où, un niveau d'escalade, il faut absolument que les gens comprennent que, oui, nous sommes Africains, il y a des mesures de résolution des conflits comme Africains. Et des consultations, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des communautés, doivent être permanente, parce que les conflits, on les aura toujours. Ouais. Mais alors, lorsque on n'arrive pas à les résoudre, c'est là que ça pose problème.
Absolument. Faïda Mwangilwa, restez avec nous. On reprend quelques réflexions, quelques analyses, notamment celle de Sarah Ntamboué. Elle est de Goma. Elle est la coordonnatrice de Change Your World, inquiète parce qu'elle ne retrouve pas plusieurs des enfants dont elle prend soin au sein de son ONG, hein, des enfants qui sont des enfants de la rue, des enfants qui sont aussi des anciens enfants soldats, et on écoute donc sa réflexion sur le sujet d'aujourd'hui.
Parce que là, nous n'avons rien vu de toutes ces plateformes auxquelles nous avions participé dans la région, dans l'EAC et même les conseils de sécurité, une pression qui tiendrait à ce que le parti ait le respect, qu'il mette au centre la dignité, la protection des populations ou même l'esprit de paix ou aller vers une paix durable. Donc nous nous disons toutes ces plaidoyers qu'on a eu à mener, ce n'était pas pour nous amener à ces cas de meurtre que nous voyons aujourd'hui. Qu'importe les réalités, les défis internes liés à un pays, ce n'est pas une raison que toutes ces communautés internationales observent de tels actes d'atrocité qui se passent dans notre pays. Et que si ces puissances s'impliquaient, on aurait certainement des résolutions. Quand il s'agit des intérêts privés des différents pays puissants dans le monde, nous sentons comment ils s'impliquent et comment des solutions sont trouvées à l'immédiat. Mais quand il s'agit, cela nous montre combien nos populations n'écoutent presque rien aux yeux du monde.
On enchaîne tout de suite avec la juriste tchadienne Thérèse Mekombe.
Le plaidoyer, c'est une bonne chose. Mais avec ce qui se passe, je crois que plus d'actions pourra aider peut-être les décideurs, le pouvoir public à revoir un peu leur manière de faire et à interpeller également l'opinion internationale. C'est des femmes, c'est des enfants qui depuis quelques jours, c'est pas seulement la première fois, qui chaque année sont obligées de quitter leur lieu de résidence. Pourquoi ne pas agir comme les femmes du Manu River ont entendu leur histoire, qui sont descendues dans l'arène pour pouvoir interpeller les belligérants à arrêter la guerre. Le contexte n'est pas le même, mais je pense qu'il faut oser. Beaucoup de pays vivent ces situations, même si ce n'est pas la même situation. Et si on peut demander aux femmes de se mettre ensemble pour mener des actions à l'endroit des gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, en incluant bien sûr les femmes du Rwanda, parce qu'elles sont d'abord femmes. Si on peut mettre à contribution les femmes du Rwanda également, pour aider à ce que le politique puisse faire place au social.
C'était la juriste tchadienne Thérèse Mekombe. On se rend à présent au Gabon pour écouter l'analyse de ma consoeur Raissa Sylvana Oyaseko.
Constatons que depuis des années, les jeunes et les femmes des Grands Lacs se mobilisent pour la paix. Leur plaidoyer est certes courageux, mais nous constatons pour le regretter que leurs voix sont trop souvent marginalisées. Pour y arriver ou pour les amplifier, il est nécessaire de créer des plateformes inclusives permettant d'intégrer systématiquement les acteurs locaux aux négociations nationales et internationales afin que leur expertise de terrain soit irremplaçable. L'éducation passe nécessairement par la médiation communautaire. Il s'agira de former des ambassadeurs de paix locaux, notamment des femmes, pour désamorcer les tensions et restaurer la confiance. Écoutez les récits des déplacés en transformant leur résilience en levier de paix. La solidarité internationale doit, pour ce faire, épouser les solutions congolaises portées par ceux qui vivent la crise au quotidien.
C'était la réflexion de la journaliste congolaise Raissa Sylvana Oyaseko. Faïda Mwangilwa, vous avez entendu ici plusieurs réflexions sur la crise donc dans l'est de la République démocratique du Congo. On a dit tout à l'heure que de nombreuses femmes finalement avaient lancé des plaidoyers pour que la guerre cesse dans l'est de la RDC. Il y a notamment le réseau des femmes leaders africaines qui a écrit une lettre en soutien aux femmes congolaises. J'en profite pour dire au passage que là justement cette organisation qui est pilotée par l'Union africaine, également l'ONU d'ailleurs, n'a pas souhaité se prononcer sur la question à la Voix de l'Amérique. Cette organisation est présidée par Helen Johnson Sirleaf et donc on comprend pas. Enfin, on comprend bien entendu. On a compris que cette crise prend une tournure de plus en plus politique et finalement on se trouve dans des situations où on demande aux femmes à un niveau nettement supérieur de ne pas se prononcer sur les questions qui sont principalement des questions de règlement de conflits avec la participation des femmes. Donc je vous poserai cette question, Faïda, comment contourner cet obstacle? On a coutume de dire que les femmes, même si elles font de la politique, elles n'en font pas tout le temps. Justement, quand elles se regroupent en telles, elles ont tendance à oublier tout cela. Mais là, on a bien compris que cette crise, elle est extrêmement délicate et du coup, eh bien, les gens ne s'expriment pas. Comment contourner cet obstacle et permettre à ces femmes de réellement dire ce qu'elles ont à dire?
Effectivement, comme vous l'avez dit, la crise, elle est délicate parce que la crise implique à la fois plusieurs acteurs. Moi, c'est ça mon analyse. Vous voyez, ça fait plus de 20 ans que la communauté internationale est ici à travers les forces de la MONUSCO pour venir protéger la population. Mais maintenant, après plusieurs réunions, après des réunions et des réunions, des plaidoyers, à un certain moment, vous voyez par exemple la population de Goma. Si vous demandez à des femmes, rares sont celles qui s'expriment, parce que nous vivons un monde d'incompréhension aussi, même chose ici à Kinshasa. Si tu poses la question à une personne, à un certain moment, il faut laisser les gens libres, que ce soit à Kigali, à Bujumbura, à Kampala. Les femmes, à un certain moment, se disent, qu'est-ce qu'il faut faire qu'on n'a pas encore fait? Et là, elle se taise, ce n'est pas ça la réponse. Je crois que nous devons continuer d'agir parce que les vies qui sont perdues, c'est des vies humaines. Aujourd'hui, c'est elle qui est tombée sur par une balle. Peut-être demain, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi avoir peur de la mort ou peur de poursuites, soi-disant? Parce que nous sommes en difficulté. Et quand on est en difficulté, il faut savoir ce que l'on veut. Si vous avez vraiment, vous êtes un homme ou une femme de paix, vous aurez toujours le courage de toucher la vérité. Le problème là où il se situe et voir comment le résoudre. Donc, on ne peut pas ne pas s'exprimer, sinon on devient complice. Lorsqu'on ne s'exprime pas, on devient complice. Donc, je pense, d'ailleurs, je dois avouer, lorsqu'on était à Luanda, on a impliqué dans la grande réunion des femmes leaders, on a impliqué toutes les grandes personnalités féminines de la région. Et Excellence Helen Johnson, elle était là avec nous et d'autres personnalités, Catherine Samba de Centrafrique et tout. On a fait ensemble un communiqué. Peut-être à un certain moment, les gens se disent, mais on fait des communiqués. Est-ce que les autorités ou les concernés, les parties prenantes, prennent connaissance de tout du contenu de ces communiqués-là? Donc, mais on ne doit pas croire.
C'est justement la question qu'on se pose, hein. C'est justement l'objet de cette émission, Faïda Mwangila. Restez avec nous, on reste en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, pour écouter l'architecte Caroline Pindi.
Il est crucial que le Congolais éveille en lui ce côté patriotique, c'est-à-dire qu'il faut un sursaut patriotique. Lorsqu'on appartient à une terre, lorsqu'on appartient à un pays, on appartient à une nation, on a des devoirs envers ce pays, on a des devoirs envers cette nation. Et notre devoir est de défendre notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule République démocratique du Congo. Et nous devons prendre conscience du fait que nos enfants et nos petits-enfants doivent vivre dans un environnement de paix. Et le Congolais aujourd'hui doit s'impliquer par des voies qui sont autorisées dans la Constitution. Organiser des marches, pourquoi pas? Mais organiser des marches comment? Il faut que le Congolais reste sur le droit chemin. On ne doit pas outrepasser justement nos droits. On a vu la population marcher, mais on a aussi vu des inciviques qui se sont mis à casser, qui se sont mis à piller. Et ça, c'est inacceptable. Nous allons continuer à nous lever, nous allons continuer à manifester comme nous le permet la Constitution. Et je pense que de cette manière-là, nous allons faire pression. Nous devons faire confiance à notre armée. Nous savons que les choses vont bien aller. Tôt ou tard, la République démocratique du Congo retrouvera justement son unicité. La République démocratique du Congo retrouvera sa place de leader en Afrique centrale.
On écoute tout de suite, toujours à Kinshasa, un auditeur de VOA Afrique, c'est Alphonse Mbouaki.
La population doit se constituer en association d'élite, comme la Lucha. La Lucha, et faire des mouvements de revendication, pas pour casser, pas pour détruire le bien des gens, mais pour plutôt faire entendre leur voix aux Occidentaux qui puissent cesser de soutenir le Rwanda. Parce qu'il y a des moyens de coopérer pour qu'ils prennent nos coltans, nos cobalt et nos lithium, qui sont des minerais stratégiques. On peut coopérer. Hein, ça peut aller, au lieu de nous tuer comme celui d'envoyer les militaires nous tuer. Sinon, l'Occident sera boycotté. Hein, on peut arriver à ce niveau.
Alors, c'est Alphonse Mbouaki, il est auditeur de VOA Afrique. Donc, il a évoqué, bien sûr, la question des ressources naturelles. Alors, ce conflit a d'autres dimensions. On n'en parle peut-être pas assez, parce que c'est encore une question délicate, hein, Faïda Mwangiloua. Mais il y a une dimension aussi intercommunautaire, on va dire, parfois même à caractère ethnique. Alors, que faire, selon vous, quelles seraient les initiatives à prendre pour éviter, justement, que tous ces conflits caractère ethnique, hein, qui existe également dans l'est de la RDC, en tout cas dans toute la région, puisse s'estomper, Faïda Mwangiloua.
Je pense que là aussi, ça fait partie des priorités. Comment faire en sorte que les conflits ne puissent pas perdurer, rester là, s'éterniser. Oui, on comprend, il y a des intérêts des uns des autres avec tout ce qu'il y a comme minéraux, mais il n'y a aucun autre intérêt à privilégier que d'abord l'intérêt humain, l'intérêt de la personne humaine. Et comment faire en sorte que ces conflits intercommunautaires ne persistent pas? Mais il y a aussi des acteurs qui ne travaillent que sur ça, malheureusement. Je me rappelle, il y a des années, les gens ont beaucoup travaillé. Il existe même en province du Nord Kivu ce que l'on appelle une organisation Barza intercommunautaire. Là, vous trouvez toutes les communautés qui se parlent, qui organisent des réunions, qui parlent avec les communautés. Mais vous allez trouver que de telles structures, pour la plupart, en tout cas, on ne voit pas des ne s'impliquer dedans parce qu'aussi ne trouvant pas leur compte. Est-ce qu'on ne les associe pas? Est-ce qu'on leur donne des moyens pour travailler et défendre au niveau des communautés, même les partenaires? Peu de partenaires appuient ce genre d'initiative. Ils se contentent des informations qu'ils ramassent et non, il n'y a pas de conflit. Il y a des conflits là où il y a des communautés, il y a des conflits. Même ici, au niveau de l'Ouest, il y a des conflits. Alors, pourquoi on ne peut pas faire un effort pour résoudre les défis définitivement et faire en sorte qu'on ne parle plus de ça et comprendre que je vais vivre, mais en vivant, je dois vivre aussi pour les autres. C'est comme ça qu'on vit dans une communauté. Mais si les conflits doivent perdurer de génération en génération, ça ne marche pas. Mais aussi, il ne faut pas non plus continuer à les entretenir. Pour quel intérêt? toutes nos populations là, des différentes communautés. Je ne vois pas une population qui ne souffre pas. Tout le monde souffre à cause de ces conflits armés dans nos provinces de l'Est. Tout le monde, personne,
merci
aucune communauté
n'a échappé. Alors, merci beaucoup. On arrive au terme de l'émission. Je rappelle que vous êtes membre de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, c'était Josèle Morissin. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur voaafrique.com. Bonne soirée et bon courage.